Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Yasmine Boulan.
Bonjour, bonsoir. Quand on écoute son album, on a l'impression qu'elle nous fait des confidences. Une voix douce, d'une pureté légèrement fêlée, posée sur les notes pop d'un piano délicat. Des mélodies et des mots qui viennent du cœur et font vibrer les cordes sensibles. Un soupçon de malice, comme pour adoucir la mélancolie romantique. 12 chansons, comme un bouquet de teintes pastel et à vif, comme autant de notes colorées aussi. Toujours des fleurs, le premier album de Jany est sorti chez Play Too, et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour.
Vous êtes toujours petite, vous êtes toujours blonde, mais est-ce que vous êtes encore la petite blonde de la chanson ?
Oh, je pense qu'il y a une part de moi qui l'est toujours. Hein. Quand on est petit, on s'imagine que quand on grandit, on devient une autre personne, mais je crois que c'est un peu comme les Pokémon, c'est une version évoluée de nous-mêmes.
Vous jouiez aux Pokémon lorsque vous étiez dans la cour de récré, là ? Parce que c'est un petit peu ce genre de scène que vous racontez dans la chanson.
Oui, je jouais à plein de jeux, hein, les POG, les trucs, enfin j'avais beaucoup d'activités.
Oui, alors c'est vrai que ça a l'air comme ça très léger quand on écoute, mais quand on s'intéresse de près aux paroles, on se dit, mais pas du tout, en fait, c'est absolument terrible ce que vous dites. Vous avez été harcelé quand vous étiez à l'école, c'est un petit peu ça, non ?
Oui, exactement, c'est ça, et c'est vrai que le ton de la chanson est très léger, parce que je voulais que ce soit l'enfant qui s'exprime, donc avec des mots simples, directs et très purs, et pas forcément la jeune femme que je suis aujourd'hui. Et comme vous disiez, oui, le message derrière est fort, il parle de harcèlement, mais aussi et surtout de force et de courage et de confiance en soi.
Oui, l'idée, c'est d'essayer de surmonter justement les moqueries, de surmonter la différence. En quoi vous étiez différente ?
En fait, j'avais une hypersensibilité que j'ai toujours, mais qui, enfant, était peut-être plus compliquée à gérer, ce qui faisait que, en fait, je ressentais tout autour de moi, comme je le dis au début de la chanson. Et c'était compliqué dans mes rapports aux autres, voilà. Donc, y a plein de choses. J'ai jamais trop compris pourquoi on se moquait de moi ou on harcelait parfois, mais voilà, c'était comme ça. C'était mon enfance.
Mais ça, cette hypersensibilité, cette différence, ce peut être aussi un atout pour une artiste.
Complètement, et c'est ça que dit cette chanson. Elle pousse à trouver son authenticité et à en tout cas en être fière. Et c'est vrai que plus on grandit, plus on comprend que c'est une force et qu'il faut absolument garder cette différence. De toute façon, nous sommes tous différents. La différence est inhérente à la vie, donc c'est comme ça. Certains plus que d'autres, émotionnellement ou physiquement, peu importe. Mais quand on est artiste, oui, ça me semble être important de garder sa, sa singularité.
Oui, et pourtant, il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah ben non, être artiste aujourd'hui, faire de la chanson, c'est précisément entrer dans le moule. »
Ah non, pas du tout. Moi, je trouve pas. Je trouve au contraire que les gens qui ont beaucoup d'aspérité font les plus grandes carrières.
Et la chanson, ça vous a donné confiance en vous, Jeannie ?
Non, pas forcément. En revanche, lorsque je l'ai composée et écrite, j'avais fait une petite maquette en 30 minutes. Et puis, lorsque je l'ai écoutée dans mon casque, à ma fenêtre, chez moi, j'ai pleuré parce que j'imaginais qu'un jour, peut-être, quelqu'un allait l'écouter. Et peut-être que ça pourrait lui donner confiance sur le chemin de l'école, dans le bus, dans la voiture, ou même des adultes. Et je crois que... En tout cas, de ce qu'on m'en dit, ça a fait le job. En tout cas, ça commence à le faire pour quelques personnes. Et ça, j'en suis très heureuse.
Alors, en tout cas, il y en a un qui vous a écouté à travers les réseaux sociaux. C'est Vianney, hein, une chanson qui s'appelle Discothèque, qu'on va écouter d'ailleurs tout à l'heure à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Vianney, quand il vous a contacté?
En fait, c'était un peu interposé au début, c'est-à-dire qu'il parlait de moi en interview, sur les réseaux, etc. Et surtout de la chanson « Mon idole ». Et voilà, c'était très pur, c'était juste, cette chanson me touche, ta musique me touche, et évidemment, c'était partagé à 1000%.
T'es mon idole, t'es mon musicien préféré. Je revois tes yeux bleus. T'es mon idole, ma force, mon plus beau souvenir. Je te cherche dans tous les visages du monde, dans tous les recoins de mes songes. Et moi, gagner la course contre le temps. Ne t'en fais pas, ta veste porte encore ton odeur. Et mes cheveux, ta couleur. Je déposerai toujours des fleurs.
Mon idole, Jeannie, qui est avec nous dans VMDN sur RFI, une chanson sur l'absence, sur le deuil, sur le manque, sur la gratitude aussi, un hommage très personnel à votre papa décédé il y a quelques années. C'était particulièrement dur à écrire cette chanson, plus que les autres?
Oui. En fait, je la compare souvent à un tatouage, c'est-à-dire que parfois on veut se faire un tatouage pour une raison, enfin pour quelque chose en particulier. Et puis on cherche le bon dessin et c'est dur de trouver le bon dessin qui représente exactement ce que ça signifie pour nous, en tout cas l'expérience ou je sais pas, ou l'hommage. Et la chanson, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est gravé à vie. Quand on écrit une chanson sur ça, on a envie que ce soit le dessin parfait, on a envie que ce soit la chanson parfaite, qui est rien à côté, que je sais pas, c'est comme si il allait l'entendre, donc il fallait qu'elle soit parfaite. Voilà, ouais. Donc c'est très dur à écrire et émotionnellement ça prend du temps aussi.
Ouais, il y a une lettre que vous lui adressez à la fin de à la fin de la chanson, et à l'intérieur de cette lettre, vous lui expliquez pourquoi votre nom de scène c'est Jani.
Oui, complètement. Alors il s'appelait Jani, J-A-N-Y. Ce qui n'était pas très commun pour un garçon. Et puis, moi, mon vrai prénom, c'est Julie. Et en fait, j'ai fait un petit mélange d'orthographe. Donc, c'est Jani avec I-E à la fin de Julie. Et voilà.
Et je crois que la musique, c'est un peu un héritage familial aussi pour vous.
Oui, complètement. Mes parents se sont rencontrés dans le même orchestre. Donc, ma maman chantait, puis mon papa jouait du tuba. Voilà, ma conception s'est faite au milieu de ça, et j'ai grandi avec beaucoup de musique autour de moi. Oui.
Et donc, vous avez été très tôt au piano ?
Alors, très tôt, vers 6-7 ans, en tout cas en cours. Après, j'ai toujours touché à l'instrument, je l'ai découvert quand j'étais petite, et ouais, après, il ne m'a plus jamais quitté, quoi.
Quand est-ce que vous avez compris que vous vouliez faire de la musique votre métier ?
En vrai, il n'y a pas si longtemps, enfin je dirais il y a 4-5 ans, quoi, la musique, ça, je me suis jamais dit tiens, j'ai envie de devenir chanteuse ou j'ai envie de devenir musicienne. Ça faisait tellement partie de moi que ça a été un chemin tout naturel. Puis quand je voyais que ça, quand même, que c'était un métier, parce que c'était un métier, je me suis dit, ah oui, là, oui, je suis en train d'en faire mon métier. Mais c'est un peu bizarre, c'est tout naturel, quoi.
Parce que avant cela, il y a eu l'opéra rock, Le Rouge et le Noir, avec des textes de Zazie. On est très, très loin de ce qu'on entend dans le disque. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là?
C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Je m'imaginais pas du tout faire ce projet-là. Et puis, j'ai passé les castings un peu, parce que je connaissais des gens qui composaient ce spectacle. Et je me suis dit, j'y vais. Moi, j'aime bien aller parfois où la vie, elle me mène. Et puis, je l'ai fait. J'ai été retenue. Donc, j'ai fait pendant 6 mois, 1 an, on a joué. Et ce que je retiens, c'est vraiment l'apprentissage de ce métier, de la scène, parce qu'on jouait 5 fois par semaine pendant 6 mois. Et c'est tout un apprentissage. J'ai fait aussi du théâtre. Et il y a une rigueur, il y a une... Ouais, c'est un peu comme un sportif, quoi. Donc, ça m'a appris beaucoup sur ça.
Alors là, avec ce disque, on est donc dans le piano-voix, pas exclusivement, mais souvent le piano-voix. Il y a une chanson qui s'appelle d'ailleurs « Piano Coccinelle », dans laquelle vous décrivez votre piano, Jénie, comme un partenaire particulier.
Oui.
Alors, le piano, c'est un ami, c'est un amant, c'est un amoureux, c'est un complice ?
C'est un confident. C'est vraiment ça. Moi, quand je me pose devant mon piano, je lui raconte des histoires, quoi. Je lui raconte mes histoires, tout d'abord, de mon cœur à lui, puis pour moi et pour lui. Enfin, je sais pas. Je personnifie un peu le piano, mais en même temps, ce qui se passe quand on joue de la musique, c'est tellement pas palpable que je sais pas. C'est peut-être obligé de le personnifier. Je sais pas. J'arrive pas trop à mettre un mot dessus.
Il y a une petite coccinelle qui a déposé ses ailes sur le couvercle du piano. Le 11 juin, il faisait beau. J'y ai glissé mes doigts, joué ainsi un do, un fa. J'ai compris que c'était toi. Tout fait de velours violet, le cendrier sur le côté. Yeah.
Et le clip de cette chanson, Piano Coccinelle, a été tourné à Paris, à la piscine Molitor, avec sa décoration très art déco, hein, tenue de bain, accessoires très colorés, plutôt ambiance années 70, début des années 80. Vous avez vraiment l'esprit vintage, en fait, Jany?
Bah oui, j'ai grandi un peu avec des parents qui adoraient ça, puis qui m'emmenaient dans les brocantes. Et puis je sais pas, c'est visuellement, c'est ce qui m'attire, quoi, et c'est ce qui me... Ouais, ce qui m'anime, et moi je suis très investie dans la DA artistique de mon projet, donc ça ressort, ça ressort, quoi.
Mais y compris au niveau de vos goûts musicaux, parce qu'il y a une autre chanson qui s'appelle Compile, avec énormément de références aux grandes stars de la chanson et de la musique des années 80, on va pas tous les citer, mais c'est vraiment impressionnant. Woolsey, Gainsbourg, Christophe, Michel Legrand, France Gall, Françoise Hardy, Gilbert Montagnier, sillon très chanson française.
Ah oui, mais moi j'ai grandi au milieu de ces artistes. Enfin, en tout cas, je les ai beaucoup écoutés. Mes parents les ont beaucoup écoutés, et donc c'est imprégné en moi. Et puis j'adore, quoi. C'est la musique qui me touche vraiment. Je trouve que c'est de la grande chanson, des grandes mélodies et des artistes sublimes, quoi.
Les chansons d'amour, des trucs de filles, on entend ça dans la chanson. Les chansons d'amour, c'est des trucs de filles. C'est pas des trucs de mecs.
Non, pas du tout. Mais alors, ce refrain de Compile, il est assez second degré. C'est vraiment voilà, la compile qu'on passe à son amoureux ou son amoureuse, peu importe. En tout cas, c'est un peu cheesy, quoi, et c'est un peu dans le cliché de la fille qui amène sa compile comme ça, et voilà. Il y a beaucoup de second degré.
Deviendrais-tu forte comme moi? Le suis-je assez pour les bons choix? J'ai tant à perdre, tu vois. Tu t'appellerais Nino Rose, aussi sensible que battait ton cœur de petite chose.
Jany dans VMDN sur RFI avec un très beau clip en bord de mer et quelques fleurs dans l'eau ou dans un vase, car avec vous Jany, il y a donc toujours des fleurs, hein, c'est le titre de cet album. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement avec les fleurs?
Alors déjà c'est drôle parce qu'à l'époque où j'ai fait ce clip, je ne savais pas que j'allais appeler mon album comme ça, et presque dans tous mes clips que j'ai sortis avant, il y a toujours des fleurs, donc déjà ça tombe bien, l'histoire est vraie. Je trouve que les symboliques de la fleur me correspondent assez, puis correspondent à cet album. Par exemple, voilà, le fait d'offrir des fleurs à toutes les étapes d'une vie. Moi, je trouve ça très beau. C'est vrai qu'il y a toujours des fleurs dans les moments difficiles ou les moments heureux. On offre des fleurs et c'est toujours un acte bienveillant. C'est toujours de la douceur que l'autre apporte. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis je trouve qu'un album, c'est, on peut le comparer en tout cas à un bouquet de fleurs, quoi, plein de couleurs, plein d'émotions, voilà.
L'album Toujours des fleurs disponible chez Plétou. Jenny en concert au Café de la Danse le 10 mars 2022, le 17 juin toujours à Paris à La Cigale et d'ici là en première partie de Vianney hein, sur sa tournée des Zéniths et notamment à Paris à l'Accor Arena le 14 décembre. Merci beaucoup Jenny. On va se quitter avec Discothèque.
Ta cigarette, emmène-moi faire une ou deux pirouettes. Sur la piste de danse, rien ne nous arrête. C'est le slow qui commence en tête à tête. On parle un peu trop, un peu vite. On part en impro, tu m'invites à boire tes paroles éthyliques. Je pars en coma éthylique. Le soir, en discothèque, il me fait tourner la tête. Le soir en discothèque, il me fait tourner sans cesse. Le soir en discothèque. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ah, ah. On parle d'amour entre deux drinks. Lequel de nous se noiera en public? Lequel de nous finira pathétique? En héros fantastique, changeras-tu de costume au lever du jour? Serais-je comme de coutume encore faite pour les trop courtes histoires d'amour? J'avais pris un ticket pour un tour, pour un soir en discothèque. Il me fait tourner la tête. Le soir en discothèque, il me fait tourner sans cesse. Le soir en discothèque. Ouh, ouh, oh, oh. Ouh, 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 oh, oh. Et quand arrive le slow, je sens ta main dans mon dos. Le DJ joue les mots bleus, les mots que l'on dit avec les yeux.
Discothèque Jenny dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et autour de la table du Café Gourmand de RFI, Fanny Blechner, Sébastien Gédor, et en ligne également avec nous notre correspondante à New York, Karine Auten. Bonjour tout le monde.
Bonjour,
bonjour Jean-François.
Bonjour.
Dans un instant avec vous Sébastien, une rencontre savoureuse avec la rappeuse malienne Ami Yerolo.
Oui, Ami Yerolo, une chanteuse libre et curieuse de toutes les musiques, une des rares femmes, voire la seule à s'être imposée sur la scène hip-hop au Mali. Elle est en concert ce soir à Gentilly, près de Paris.
Avec vous Fanny, de grands sentiments, hein, il sera question d'amour, mais aussi d'ambition.
De choix cornéliens, de rouge et de noir. Vous l'aurez compris, on va parler de l'œuvre de Stendhal. Elle est adaptée en ce moment à l'Opéra Garnier à Paris, sous la forme de ballet. Et vous verrez qu'après de 90 ans, le chorégraphe Pierre Lacote en propose une version originale.
Mais d'abord, direction New York avec vous, Carrie. Alors cette semaine, dans le hall d'entrée des Nations Unies, ont été installés des portraits géants, des portraits de femmes qui jouent un rôle dans les négociations de paix. Et c'est une exposition qui est montrée d'ailleurs en même temps dans New York, sur les quais de Brooklyn, dans un festival, le festival Photoville.
Et oui, puisque hier, le débat annuel Femmes, Paix et Sécurité a eu lieu à l'ONU pour faire le point sur les progrès d'inclusion des femmes au processus de paix mis en place sur la planète. C'est un peu sérieux hein, ce que je vous raconte. Mais pour marquer le coup, ces portraits géants de l'exposition « Quand les femmes prennent la paix en main » ont été dévoilés à l'entrée du bâtiment. On y voit des militantes ou des femmes politiques de tout pays, avec une belle part d'Afrique tout de même. Les légendes des photos racontent leurs engagements auprès des habitants du Mali, de République démocratique du Congo, du Soudan ou de la Centrafrique. Pour Sandra Gringers, de l'unité du genre au service maintien de la paix de l'ONU, il était temps d'organiser une telle exposition.
Les histoires qui racontent les femmes dans la guerre sont souvent à propos des femmes victimes. Elles ne mettent pas forcément en valeur les femmes comme agents de changement ou leaders politiques. Avec cette exposition, nous voulons diversifier cette image et inspirer une discussion à travers leur voix. J'espère que ça va inspirer le Conseil de sécurité et même au-delà, les États membres.
En tout cas, le projet est vite remonté aux oreilles de la centrafricaine Béatrice Sepaye, qui a du coup accepté immédiatement d'en être. Elle avait participé aux négociations de paix, elle est maintenant députée, sans étiquette. Son combat, c'est d'inscrire la participation des femmes à la vie politique dans la loi. Sur sa photo, elle pose à son bureau.
Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce que moi je fais, c'est dans la brousse, personne ne voit. Et peut-être il faut mettre plus de visibilité. Et une photo, ça parle.
Alors, si Sandra Gringers parle d'inspirer le Conseil de sécurité, c'est parce qu'il y a 20 ans, le Conseil a justement voté la fameuse résolution 1325 qui exige plus de participation des femmes aux négociations de paix. Mais 20 ans et 10 résolutions plus tard, eh bien, l'ONU se rend compte que les progrès ne vont pas assez vite sur le terrain.
One key issue is that
Un des problèmes majeurs, c'est que l'institution, les systèmes qui gravitent autour du processus de paix sont structurés par le patriarcat. Et cela exclut très souvent les femmes ainsi que la société civile du processus de négociation. Pourtant, la recherche a prouvé que lorsque les femmes sont réellement impliquées et invitées aux négociations dès le début, la paix tient plus longtemps. C'est notamment dû au fait que les femmes amènent d'autres expériences, d'autres vécus dans les conversations. Et lorsque les femmes sont là, ça élargit aussi les priorités de la société à inscrire au cœur du processus de paix.
Et alors, pourtant, la centrafricaine Béatrice Sepaye l'assure, à des échelons de prise de décision locale, les femmes jouent aussi souvent un rôle important en coulisses.
Dans nos villages, quand il y a des problèmes qui se créent, et que les hommes autour d'un chef n'arrivent pas à régler, mais ils reportent la décision pour peut-être le lendemain, pour que chaque homme, et surtout le chef, retourne chez lui demander l'avis de sa femme. Et souvent, que ça revient le lendemain, il trouve une solution.
Béatrice Sepaye, elle, s'est battue. Un quota de 35% de femmes a déjà été imposé par la loi en Centrafrique. Et en 2026, la parité devrait être de mise. C'est donc dans 5 ans seulement. Mais ça a été une vraie bataille. Pas toujours à la régulière, apparemment. Mais les femmes ont tenu bon. Et ça, c'est le message qui passe avec ce portrait.
Alors, Carrie, on vous a beaucoup parlé, je crois, de l'entente des femmes sur le terrain aussi, de leur façon de coopérer.
Oui, et d'ailleurs, ça se sent dans les photos, Jean-François. Ces militantes ont beau être dans des pays différents, il y a comme un espèce de fil invisible entre tous ces portraits. Et en écoutant Béatrice Sepaye, on se dit que l'ONU a réussi son pari avec cette expo, parce qu'on s'en rappellera bien plus qu'une énième déclaration.
Nous, dans notre forum des femmes parlementaires, on fait fi de tout ce qui nous divise. Il y a trop de choses qui divisent dans un pays en conflit comme la RCA. On est divisé parce qu'on vient de régions différentes. On est divisé parce que nous appartenons à des religions différentes. On est divisé parce qu'on est dans un tel ou tel groupe, des gens qui sont en conflit, etc. On s'est dit non. Ensemble, on fait fi de tout ça. On est là en tant que femmes centrafricaines, députées, pour faire la promotion du leadership féminin en politique. C'est là où on sera dans les organes de prise de décision et on pourra mieux contrôler et mieux participer pour changer les choses, changer la souffrance de nos populations pour que les choses aillent mieux.
Et l'autre particularité de cette exposition, Carrie, c'est que ces clichés n'ont été pris que par des femmes photographes.
Et oui, c'était une deuxième condition proposée par l'ONU aussi. Et j'ai appelé Léa Ouéra, qui est une photojournaliste basée en RDC. Et elle pense bien que cela pourrait avoir un deuxième impact sur le public africain.
Je pense que ça peut avoir un impact parce que déjà, il y a très, très peu de femmes photographes dans certains pays et sur les continents. Parce que même là où je suis, dans ma ville, par exemple, je connais que 3 photographes dans une population, par exemple, de 2 millions. Donc, il y a très, très peu de femmes photographes. Et moi, je pense que si dans d'autres pays, on arrive à voir que, voilà, il y a des femmes photographes qui font un bon travail, un travail de bonne qualité, et qui travaillent sur certaines questions qu'on ne voit pas d'habitude et tout ça, et qu'on sait que c'est une femme. Moi, je pense que c'est important, et ça donnerait aussi l'opportunité à d'autres femmes de comprendre que, ben voilà, on peut faire ça, et il n'y a pas que des hommes et tout ça. Il y a des femmes capables, il y a des femmes photographes, journalistes qui sont capables de faire un très bon travail, voilà.
Alors, Léo Ouera, elle a tiré le portrait de Fifi Baka, qui travaille elle aussi côté Congo à l'inclusion des femmes dans la vie politique. Elle l'a suivi plusieurs jours.
Alors, cette exposition, on le disait tout à l'heure, Carrie, elle est montrée en même temps à l'ONU et au festival Photoville. Comment réagit, Carrie, le public new-yorkais devant les images de Fifi Baka en République démocratique du Congo ou encore de Mouna Awata Touré au Mali?
Eh bien, j'ai été étonnée, mais Laura Roumanos, qui est l'une des créatrices de Photoville, a étudié de près la réaction des New-Yorkais, car elle reçoit de nombreux groupes de lycéens notamment. Elle est catégorique, il y a une certaine universalité, même si les femmes new-yorkaises n'ont absolument pas besoin d'aller négocier des processus de paix. Mais ces militantes du monde entier ont totalement leur place, finalement, sur les quais de Brooklyn.
Elles sont inspirantes.
Very, very.
Très, très inspirante. Du coup, on a toutes ces conversations avec des jeunes ici sur ce qu'elles font, pourquoi elles le font, sur les défis qu'elles rencontrent. Et après, on leur demande de réfléchir à ce qui se passe chez nous, de comparer leur propre vécu avec ce qui se passe là-bas. Avoir de l'empathie et mieux comprendre ces autres personnes, ces autres cultures, ces autres situations, c'est important pour les jeunes New-Yorkais.
Voilà, quand les femmes prennent la paix en main, c'est le titre de cette exposition qui tournera ensuite en janvier et février en République démocratique du Congo et en Centrafrique et en mars à Nairobi. Merci beaucoup, Carrie.
Et si je puis me permettre, Jean-François, Carrie, vous avez dit que dans les opérations de maintien de la paix ou dans la photo, on n'est pas encore à la parité. Bon, on va voir dans quelques instants que dans le rap, on en est très très loin aussi.
Bienvenue à présent dans la petite ville de Verrières. Verrières, c'est dans l'est de la France, au milieu des montagnes. On n'est pas très loin de la ville de Besançon. C'est du moins comme ça que l'imagine Stendhal. Et il va faire de ce paysage, Fanny, le décor de son fameux roman « Le rouge et le noir ».
Publié en 1830 et considéré comme une œuvre majeure de la littérature française, il a déjà été adapté pour le cinéma avec Gérard Philippe dans la peau de Julien Sorel, également aussi sous la forme d'opéra rock. Cette fois, c'est sous la forme d'un ballet qu'il est revisité, un ballet que l'on peut voir en ce moment à Paris, à l'Opéra Garnier. C'est le chorégraphe Pierre Lacote qui en est à l'origine.
Parce que « Le rouge et le noir » est un sujet fascinant, j'ai beaucoup été impressionné lorsque je l'ai lu très jeune, le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, et j'avais tout de suite pensé que, tiens, un jour, ça pourrait faire un ballet magnifique. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, j'ai relu le roman et j'ai dit, vraiment, ça serait fantastique. Seulement, il y avait un obstacle à franchir, c'est-à-dire que c'est un grand roman, énorme, bien entendu, et Dieu seul sait s'il est plein d'écritures merveilleuses, mais il fallait trouver une adaptation pour permettre au public de comprendre que toutes les dénonciations qui étaient faites contre Julien arriveraient à le détruire complètement.
C'est vrai que le roman est absolument énorme. Moi, je confesse que j'ai pas réussi à le terminer. Sébastien, je sais pas où vous en êtes arrivé.
Je pense que je l'ai lu quand j'étais au lycée. C'est au programme.
Oui, au lycée. Oui. Moi, c'était en seconde. Effectivement,
pour être
mais
honnête,
j'ai pas tout lu.
Je suis en train de le lire actuellement.
D'accord. Très bien. Bon, il fait un peu plus de 600 pages, Fanny, quand même. Alors, le ballet, on se dit, ça doit être monstrueux. Il dure combien de temps, le ballet?
Non, alors, rassurez-vous, ce n'est pas une performance de 20 heures ou que sais-je. L'action, elle est vraiment resserrée en 3 actes d'un peu moins d'une heure chacun. Ce qui fait aussi gagner en intensité pour l'intrigue. C'est ce que nous explique les deux danseurs étoiles, Hugo Marchand et Dorothée Gilbert.
Dans le ballet, comme le temps est plus court, elle se laisse aller plus facilement dans les bras de Julien. On sent un peu moins la retenue et le côté de l'éducation et du fait que voilà, elle est mariée, elle a 3 enfants, qu'elle a une vie établie et qu'elle n'est pas prête à tout gâcher entre guillemets pour une amourette.
C'est vrai qu'il y a le temps en fait pour le ballet est très différent. Il peut se passer, nous, une scène qui dure 3 minutes en fait peut découler 100 pages du roman de Stendhal. Et à contrario, par exemple, tout le troisième acte, c'est les 100 dernières pages du roman. Et donc, en fait, on passe quand même une heure complète sur 100 dernières pages, qui sont les pages où il se passe le plus de choses, où tout à coup, ça s'emballe et ça déraille complètement.
Oui, donc il faut vraiment aller au bout. Alors, Fanny, on peut peut-être quand même rappeler en quelques mots l'intrigue du Rouge et le Noir.
Oui, alors on suit dans ce roman l'ascension d'un jeune homme, Julien Sorel, un jeune homme très ambitieux, parti entre guillemets, on peut dire, du bas de l'échelle sociale, qui doit initialement rejoindre les ordres et qui va peu à peu côtoyer des milieux de plus en plus bourgeois, mais dans cette version avec un peu moins de noirceur, selon son interprète.
Le côté pervers qu'on peut découvrir, en fait, est très opportuniste qu'on découvre chez Julien Sorel tout au long de l'œuvre de Stendhal, est moins montré, en fait, dans le ballet. Il y a un côté plus romantique, plus histoire d'amour, je dirais pas fleur bleue, mais voilà. Julien utilise les femmes pour monter l'échelle sociale, mais avec moins de perversion qu'il peut le faire dans le bouquin.
Et celle qui, au contraire, fait preuve de particulièrement de perversion dans cette adaptation, c'est Elisa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'est dans le roman.
Je pense qu'il va falloir que vous me repassiez le livre quand vous l'aurez terminé.
Alors, Elisa, c'est la femme de chambre de Madame de Rênal. Elle aussi est amoureuse de Julien. Ici, c'est elle, la traîtresse, qui va dénoncer ses agissements à plusieurs reprises. Ici, son rôle, donc, il gagne vraiment en importance. Au milieu de personnages complexes, il y a sans cesse des tensions, dans l'attirance même des corps sur la scène. Donc les paroles, elles sont remplacées par du mime, de la tragédie, mais surtout des portées, des mouvements de fuite et puis des pas qui enfin s'accordent, notamment sur une très belle scène d'amour entre les deux amants juste avant qu'ils ne soient découverts.
Et cette musique, Fanny, elle est signée ?
Eh bien, elle est signée du compositeur Jules Massenet, un compositeur de la deuxième moitié du 19e siècle, dont les œuvres ont tout de suite parlé à Pierre Lacotte.
J'ai pris des extraits de différents ouvrages de Massenet qui ne se donnent pas, et en les associant les uns après les autres, j'ai trouvé un découpage qui permettait que tout soit lié. Et j'ai demandé à un orchestrateur, un musicien, un très très bon musicien qui est aussi compositeur, Benoît Menu, qui lui a fait les arrangements quand c'était chanté. Il y avait des airs chantés, on les orchestrait, etc., etc. Et tout le ballet a fini par naître de cette manière-là. Et il a tellement de variétés de nuances dans sa musique. Lorsqu'il y a quelque chose de triste, on a envie de pleurer tellement sa musique est belle. Lorsqu'il aime, on sent qu'il y a un élan du cœur qui est transporté. Et puis l'énervement, la colère, la description d'un clair de lune, tout avec Massenet est lisible. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça a aidé tous les danseurs à se laisser guider par la musique et par le texte du roman, partir par la pantomime et les drames qu'il arrivait à chacun.
Et la mise en scène en elle-même, alors, Fanny ?
Eh bien, elle est plutôt classique, dans le sens où on est vraiment dans le corps de ballet. Il faut imaginer une cinquantaine de danseurs coordonnés, avec d'ailleurs la mise en abîme d'une longue scène de bal. Et puis, les décors, eux aussi, invitent à la rêverie.
J'ai imaginé que c'était un livre qui s'ouvrait, et qu'au milieu de ce livre, il y avait des gravures qui sortaient. Et tous les décors sont en noir et blanc, comme le livre, mais les personnages qui sortent de ce livre pour raconter leur histoire, leur vie, sont en couleur. Et à la fin, sans doute, ils vont retourner dans le livre.
Et au milieu donc de ces décors en noir et blanc, les costumes contrastent fortement. Ils ont également été pensés par le chorégraphe, de riches étoffes colorées. Pour peu, on comprendrait l'ambition sociale de Julien Sorel.
Julien Sorel, alias Hugo Marchand, donc dans la distribution. Hugo Marchand qui reste sur scène tout au long du spectacle.
Et un rôle masculin d'une telle envergure, en fait, ce n'est pas si commun.
Vraiment, Julien Sorel, il est là tout le temps. Et c'est en fait, c'est le voyage d'un homme. Et pour le ballet, c'est assez rare, puisque c'est souvent des rôles de femmes, c'est souvent des cygnes, des princesses, etc. Là, c'est pas un prince, c'est quelqu'un qui vient, entre guillemets, c'est un fils de charpentier. Donc on commence en bas de l'échelle sociale. Et c'est un rôle pour les hommes. Et ça, c'est important, parce qu'il y en a peu. Et il faut les garder, les conserver. Et je pense que ça fait partie de notre héritage, de notre tradition du ballet pour plusieurs générations, je l'espère.
Et c'est aussi ce qu'espère Pierre Lacotte, 89 ans, et qui a travaillé sur cette pièce durant 5 ans.
Pour moi, ce n'est pas un testament, mais presque, parce que je ne crois pas qu'à 89 ans, je vais monter beaucoup de ballets encore. Ça m'a demandé un effort considérable, mais l'enthousiasme était tel que je n'ai pas senti ni la fatigue, ni l'âge. Je trouve que, vous savez, une vie d'artiste se passe aussi vite que la vie de n'importe qui, bien entendu, mais elle est remplie de tellement de joie, de lutte, d'efforts, et surtout de volonté pour essayer de, jusqu'à la fin de sa vie de servir l'art que l'on aime. Moi, c'est la danse depuis l'âge de 10 ans. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et j'en remercie le ciel et tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait confiance dans le monde entier. Et c'était une joie. Et là, je sens que je reviens dans ma famille faire ce dernier ballet. Et pour moi, c'est très agréable.
Ouais, formidable Pierre Lacotte, on l'écouterait pendant des heures, la passion toujours intacte, le rouge et le noir, c'est donc Fanny à l'Opéra Garnier à Paris, c'est à découvrir jusqu'au 4 novembre, merci. Alors on change un tout petit peu d'univers, mais c'est le principe du Café Gourmand.
Il y a comme un contraste. Oui.
Alors elle gère, c'est le titre de cette chanson, et c'est vrai que elle gère Ami Yerewolo, Sébastien, la rappeuse malienne, qui est d'ailleurs en concert ce soir à Gentilly, dans la banlieue sud de Paris, dans le cadre du Festival de Marne. Vous l'avez rencontrée il y a quelques jours dans un autre festival, le MAMA, toujours à Paris, Ami Yerewolo, qui décidément n'a pas sa langue dans la poche.
Non, elle est la première rappeuse à percer sur la scène hip-hop au Mali, mais avec son troisième album AY, vous aurez compris, ce sont ses initiales. Oui. Ami Yerewolo voit plus loin, en témoignent ses concerts à l'international. Ami Yerewolo, petite tresse, les tempes rasées, lunettes rondes, en pantalon, la chanteuse de 30 ans brise le carcan d'un milieu bien macho pour chanter les vertus de l'éducation et dénoncer les injustices. Car si le rap pour elle n'est pas politique, il doit quand même raconter les faits de société. Et Ami Yerewolo, en bambara, elle compte bien faire passer des messages.
Déjà, c'était la liberté de m'assumer aussi. Aussi, dans cet album, c'était une découverte. Avant, je pensais que le rap, c'était juste un style de musique qui était monotone, au fait. Il n'y avait pas de changement, il n'y avait rien. Mais là, avec ce nouvel album, j'ai compris que le rap pouvait avoir d'autres trucs. Non seulement on pouvait rapper, mais aussi faire danser, ce qui n'est pas très fréquent dans le rap. Donc là, j'ai vraiment fait une découverte et je me suis retrouvée en plus. Mais le plus important pour moi, le message, c'est vraiment faire passer, par exemple, la persévérance, des messages forts, et le pardon, le respect des uns envers les autres. Et puis aussi ces choses de la société parfois, comme les commérages, ces choses à se mêler de la vie des autres, vouloir dicter aux autres ce qu'il faut. Et voilà, donc toutes ces choses-là, moi j'essaie de faire sortir toutes ces choses-là qui s'est passé dans ma société. Donc à travers des mots, à travers des expressions parfois, avec des ironies, parfois avec des mots forts, mais en tout cas, ça me permet d'évacuer les mots de ma société en fait.
Oui, en fait, Sébastien, on a un peu l'impression qu'Ami Yerewolo se libère grâce aux mots.
Oui, c'est un peu ça. Hein. Son père aurait bien voulu qu'enfant, elle joue un peu plus à la poupée, mais elle préférait le foot. Je ne sais pas si c'était votre cas, Fanny. Vous étiez plutôt poupée, plutôt
malheureusement,
foot.
Très cliché, plutôt poupée à l'époque.
Ah, d'accord. Je vous aurais bien vu dans les deux. Passé le bac, Aminata Danioko, c'est son vrai nom, quitte Mahina dans l'ouest du Mali. Elle part pour Bamako, elle se lance en médecine, elle échoue, elle rebondit dans la finance et finalement dans le rap. Elle s'accroche là où beaucoup de chanteuses sont éjectées du circuit au bout de quelques mois sans avoir sorti de disque. Une belle persévérance, mais attention quand même, il ne faut pas confondre la femme et la chanteuse, Aminata et Ami.
Non, les deux sont vraiment différentes. Parce que dans la vie de tous les jours, comme je le dis, moi je n'aime pas trop attirer l'attention sur moi. J'aime bien rester discrète à côté et très timide. Mais la rappeuse, elle s'en fout. Elle dit les choses sans filtre. Elle y va. Et puis en plus, elle essaie. Je pense que j'ai mis une carapace au fait. Je pense que la rappeuse, j'essaie de porter une casquette au fait, de faire porter une casquette à Ami Yerewolo quand je suis sur scène, quand je parle. Là, je dis les choses vraies, sans penser à ce qu'on pourra me dire, à ce qu'on pourra faire. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Les choses viennent naturellement et je laisse faire les choses. Mais après, dans la vie de tous les jours, je fais attention parce que voilà, l'éducation aussi fait que tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Donc, c'est des choses-là que j'essaie de faire une différence entre moi-même, ma personne physique et aussi l'artiste qui est en moi.
Ami famille Yerewolo dans VMDN sur RFI. Et même si elle veut rester modeste, Sébastien, il faut quand même rappeler qu'elle a été la première rappeuse à remplir le Palais de la Culture de Bamako.
Oui, c'est pas une petite performance. Elle a aussi monté un festival, le Mali à des rappeuses, pour lutter contre l'effacement des filles de la scène urbaine. Alors, Ami Yerewolo a-t-elle le sentiment de faire changer les choses? Voici sa réponse.
En fait, moi, j'ai du mal à dire que j'ai fait ça. Mais en tout cas, moi, j'essaye, à travers la musique, à travers les projets, d'apporter ce que moi, je peux à la culture malienne. Parce que moi, je me dis juste, c'est dommage de mettre quelqu'un à l'écart parce qu'il fait un style de musique qui ne plaît pas. Ce n'est pas le style de musique. Moi, je trouve que c'est la personnalité, c'est la mentalité et c'est l'objectif de la personne qui doit compter. Et le style de musique, c'est... Bon, moi, je peux faire du rap aujourd'hui, demain, je peux faire du jazz, après, demain, je peux faire du reggae. Ce n'est pas ça qui me définit. Mais ce qui me définit, c'est ma mentalité, où est-ce que j'aimerais aller avec la musique. Et moi, mon objectif n'est autre chose qu'à travers ce que moi je sais faire de mieux que le rap, apporter mon soutien à la culture de mon pays.
Et j'imagine, Sébastien, que c'est pas un hasard si Ami Yerewolo cite parmi ses références un certain Salif Keïta.
Oui, alors ça pourrait paraître étonnant pour une rappeuse, c'est pas tout à fait le même style, mais rien de plus normal pour Ami Yerewolo, dont l'album regorge de sonorités parfois traditionnelles et souvent surprenantes. Un album de rap où on entend des trompettes, de l'orgue, de la flûte. D'où vient cette diversité?
Oui, bah, ça, c'est par contre, c'est pas mon idée, parce que c'est Blick qui a travaillé avec Romain.
Blick Bassi.
Oui, Blick Bassi, donc mon producteur, c'est lui qui a contacté Romain, et donc Romain, c'est lui qui m'accompagne déjà sur scène. Bah, c'est lui qui a proposé les prods. À la base, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'aime. J'ai dit qu'en tout cas, j'aimerais toujours qu'il y ait cette sonorité africaine. J'aimerais me retrouver. Mais après, les tempos, c'est vous qui choisissez, les trucs, c'est vous qui choisissez. Pour une première fois, j'ai essayé de faire confiance à quelqu'un d'autre pour me proposer les prods, et franchement, j'ai pas été déçu, quoi.
Et nous non plus, on n'est pas déçus par cet album. AY, cette diversité dans la musique, pas courante dans le rap, Sébastien, elle n'est pas seulement l'œuvre du producteur Blick Bassi et du musicien Romain Jovion.
Non, car Ami Yerewolo, donc la fameuse AY, l'indépendante, oui, est une grande curieuse. Elle s'intéresse à toutes sortes de musiques. Je lui ai demandé à quoi ressemblait une journée type pour elle à Bamako.
Bah, le matin, je me réveille très tôt pour prier. Donc du coup, après ça, je lis un peu de Coran. Après, j'aime bien écouter de la musique jusqu'à ce que je sois fatiguée. Non seulement pour moi-même, que je puisse m'adapter à n'importe quel style d'instrumental, mais aussi que je puisse savoir que la musique est tellement infinie.
Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ami Yerewolo sera en concert ce soir avec une autre chanteuse libre et inclassable, l'angolaise Pongo à Gentilly, près de Paris. Il y aura d'autres dates en France, mais aussi en Norvège jusqu'à mi-décembre.
On va suivre ça. Merci Sébastien.
Ça va les réchauffer en Norvège.
Merci Sébastien, c'est clair. Merci aussi à Carrie, à Fanny, à Yasmine Boulan et Jérémy Bessé. Dans un instant, le journal sur RFI. Johnny Toro ni alama Johnny dami kama ai ito soro nyango ya jugu ya besengoni ya intelo sora nyini washila ola donola ini sago soro fala adome bala obela utu dado nyango nga kungoula sikiza ula nyama teke yora ula suma ni morude be wile nyango nga koula shite shife shite shika tanye fe shite shika hera fe ube nyoko ande chile nyoko nyoko koke nyoko la boshi.
Bon week-end à tous, on se retrouve lundi avec Cécile Fakouri qui ouvre une nouvelle galerie d'art à Paris et le peintre et documentariste sénégalais Cheikh Ndiaye qui expose ce week-end à la FIAC. À lundi et vous m'en direz des nouvelles.
RFI, la sélection du mois.